aider quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Ne te juge pas sans savoir, partage leur savoir. Te donne plutôt que te prendre, ne torture jamais ta mémoire. Ils t'écoutent, n'ont pas de sentiments secrets envers toi. T'aiment pour ce que tu es, ont une éthique et croient en toi. Pardonne quand tu t'égares, car connaissent les faiblesses de l'homme. Te donne des conseils clairs pour évoluer vers les sommets. Ils sont en support.
Il est 7h à Paris, 9h30 à Téhéran. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
L'heure du journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
L'Iran promet une longue guerre et continue de cibler tout le Moyen-Orient.
Notamment le sultanat d'Oman, où nous retrouverons notre envoyé spécial Guilhem Delteille dans un instant. Téhéran vise désormais les centres économiques et bancaires du Golfe. Téhéran qui réplique toujours face à Israël et qui tire pour la première fois conjointement avec son allié libanais du Hezbollah. Nous appellerons Siavash Ghazi dans la capitale iranienne dès le début de ce journal. Nous serons aussi en Corée du Sud. Le pays met en place des mesures d'urgence alors que le prix du baril de pétrole dépasse à nouveau les 100 dollars. Au Chili, où l'extrême droite est à nouveau au pouvoir et le nouveau président José Antonio Kast annonce la couleur, vous l'entendrez. En France, à 3 jours des municipales, les ténors de l'échiquier politique jouent leur avenir, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe au Havre. Et puis restez bien avec nous, après ce journal, on parle de ça.
Le centre en retrait, oh, le 5e but du Paris Saint-Germain. Et qui a marqué? Eh bien c'est Kvaratskhelia qu'il y a.
Le carton du PSG hier soir, 5-2 face à Chelsea en Ligue des Champions. RFI y était et Antoine Grenier est le mieux placé pour vous raconter, ce sera dans le journal des sports.
Une guerre d'usure promet Téhéran, une guerre déjà finie, selon Donald Trump.
Pour qui l'Iran est proche de la défaite, le président américain a ajouté que les États-Unis étaient en capacité de rendre toute reconstruction de l'Iran presque impossible. À l'inverse, les autorités iraniennes se sont redites prêtes à une guerre longue, une guerre d'usure, alors que les bombardements se poursuivent. Bonjour Siavash Ghazi.
Bonjour.
Siavash, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Nous sommes au 13e jour de ce conflit, une durée qui a déjà dépassé celle de la guerre des 12 jours de juin dernier. Et ce matin, l'Iran qui revendique pour la première fois des attaques conjointes avec ses alliés du Hezbollah.
Absolument, les gardiens de la révolution ont publié un communiqué hier soir très tard, annonçant que pour la première fois, une attaque conjointe avec le Hezbollah libanais a été menée, visant 50 cibles en Israël. L'Iran a utilisé des missiles Khorramshahr, Fatah ou Qad, avec une tête d'une tonne à chaque fois, et pour certains, des têtes dirigeables qui étaient utilisées. L'Iran a aussi revendiqué des attaques contre des bases américaines, et notamment des dépôts de carburant en Irak, au Koweït, à Bahreïn, mais aussi en Arabie Saoudite, en Jordanie, aux Émirats encore, ou à Oman, où donc on a vu des vidéos d'un incendie gigantesque dans ces dépôts qui sont, selon Téhéran, utilisés par l'armée américaine. Enfin, deux pétroliers américains ont été visés dans la partie nord du golfe Persique et ont pris feu. Téhéran maintient ainsi la pression en menaçant de frapper tout navire américain ou des navires alliés des Américains et contrôler le détroit d'Ormuz, où aucun navire ne peut désormais passer sans l'autorisation de l'Iran.
Et Téhéran par ailleurs a à nouveau frappé cette nuit des frappes de drones dans plusieurs secteurs de la capitale iranienne.
Absolument, la nuit a été marquée par d'intenses frappes contre plusieurs quartiers de la capitale, mais aussi le survol de drones, alors que les batteries antiaériennes sont entrées en action dans plusieurs quartiers de la capitale. Des drones quelquefois immobilisés pendant une heure sur certains quartiers de la capitale, à basse altitude, avec un bruit de bourdonnement très stressant, selon l'agence Fars. 10 membres des forces de sécurité ont été tués lors de frappes contre des barrages de contrôle qui ont été mis en place un peu partout à travers la capitale iranienne. De son côté, Téhéran a annoncé avoir abattu au moins 2 drones israéliens au-dessus de la capitale iranienne.
Merci beaucoup, Siavash Ghazi, en direct de Téhéran sur RFI. L'autre front de cette guerre, c'est celui du Liban, où les chiffres du conflit sont plus alarmants encore. Plus de 800 000 déplacés, plus de 630 personnes tuées lors de bombardements israéliens sont les chiffres du ministère libanais de la Santé. Cette nuit, une attaque sur le front de mer de Beyrouth a fait au moins 8 morts. Nous y reviendrons avec Monseigneur César Essayant, vicaire apostolique de Beyrouth. Il sera l'invité d'Arnaud Pontus après ce journal.
L'Iran et le Liban pris dans l'étau de la guerre, le reste du Moyen-Orient aussi.
Notamment les 6 monarchies du Golfe prises pour cible par l'Iran, parmi lesquelles le sultanat d'Oman, où nous retrouvons notre envoyé spécial Guilhem Delteille. Bonjour Guilhem.
Bonjour Martin.
Guilhem, vous êtes dans la capitale Mascate. Nous l'évoquions avec Siavash Ghazi. Il y a un instant, l'Iran n'entend pas stopper ses attaques. L'Iran qui veut désormais frapper les centres économiques et bancaires dans le Golfe. Cela fait suite au bombardement d'un établissement bancaire dans la capitale iranienne par Israël et les États-Unis.
Oui, la menace est prise au sérieux. Plusieurs entreprises internationales ont décidé de fermer leurs bureaux pour quelques jours ce mercredi. C'est le cas à Dubaï du géant bancaire états-unien Citi et du groupe de conseil britannique Deloitte. PwC, un autre groupe de conseil, a lui fermé ses bureaux aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et au Koweït pour le reste de la semaine par mesure de précaution, indique-t-il. Ce sont là des mesures temporaires, mais qui sont de nature à renforcer les craintes des pays du Golfe de voir ce conflit affecter durablement leur capacité à attirer des investissements étrangers, des craintes qui s'ajoutent aux difficultés d'exportation et d'importation via le détroit d'Ormuz. Une agence de surveillance maritime britannique signale ce matin qu'un porte-container a été touché par un projectile inconnu au large de Dubaï. Elle dénombre une quinzaine d'attaques sur des bateaux depuis le début de la guerre. En première ligne dans ce conflit, les monarchies du Golfe ont obtenu un vaste soutien diplomatique ce mercredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution condamnant les attaques iraniennes. Cette résolution a été soutenue par 135 pays, un nombre record dans l'histoire des Nations Unies, marquant un isolement de l'Iran.
Merci beaucoup Guilhem Deltaï en direct de Mascate sur RFI. Enfin, le pétrole, toujours nerf de la guerre. Le prix du baril du Brent remontait au-delà des $100 malgré l'annonce du déblocage de stocks massifs par l'Agence internationale de l'énergie. Une quantité record de 400 millions de barils vont être déstockés par les 32 pays membres. En Corée du Sud, les automobilistes ont vu le prix du gasoil exploser et prendre 30 centimes en quelques heures. Il atteint désormais 1,20€ le litre, un record dans le pays. Et le gouvernement a décidé de mettre en place un prix plafond pour épargner les consommateurs. Silvio Fioretti.
2000 won le litre environ, soit près d'1,20€, du jamais vu dans les stations-service sud-coréennes. De quoi faire la moue devant le compteur, c'est le cas de Monsieur Kim, livreur. Il est venu faire le plein de son scooter, son outil de travail.
Pour nous qui dépendons de l'essence pour travailler, payer le plein tous les jours, ça s'accumule pour le porte-monnaie. Pour l'instant, ça va encore, mais sur la durée, ça va devenir très dur.
Une montée des prix qui suscite l'incompréhension pour Monsieur Park, venu faire le plein de sa Mercedes.
C'est la première fois que je vois des prix comme ça. Mais bon, en cas de guerre, il y a des réserves de pétrole, non ? Les prix ne devraient pas augmenter aussi brusquement. Là, on dirait qu'ils augmentent juste à cause de la guerre. J'ai l'impression que c'est un peu exagéré.
Un constat partagé par le président sud-coréen Lee Jae-myung, qui avait déjà appelé les pompistes à ne pas augmenter leurs tarifs. Désormais, un prix plafond va être imposé par le gouvernement dans le courant de la semaine pour limiter l'impact de la crise pétrolière sur l'économie et le porte-monnaie des Sud-Coréens. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
La guerre au Moyen-Orient qui en éclipse une autre, celle en Ukraine, et Paris qui annonce ce matin que le président français Emmanuel Macron recevra vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils échangeront demain sur les engagements pris dans le cadre de la coalition des volontaires sur les garanties de sécurité. Et ce alors que la guerre face à la Russie dure désormais depuis plus de 4 ans. Il est 7h07 à Paris, comme à Brazzaville, où l'élection présidentielle se tient ce dimanche. Denis Sassou-Nguesso, qui a passé en cumulé 41 années à la tête de l'État, brigue un cinquième mandat consécutif. Un vote qui débute dès ce jeudi pour les militaires, qui votent par anticipation. Demain, ce sera le dernier jour de meeting, une élection sur laquelle nous revenons dans une vingtaine de minutes dans la prochaine édition d'Afrique Matin. Et dans une heure, un peu moins d'une heure, dans le journal de 7h, temps universel, ce sera le dossier de la rédaction. L'actualité africaine, c'est aussi ce matin la Tunisie, où la flottille internationale pour Gaza alerte sur le sort de plusieurs de ses membres, plusieurs organisateurs qui espéraient voyager vers l'enclave palestinienne au printemps prochain. Ils ont été arrêtés la semaine passée par les autorités tunisiennes. Sofiane Amazian.
Au moins 7 membres de l'organisation Global Summit Flotilla ont été arrêtés par la brigade antiterroriste du côté de Sidi Bou Saïd, ce qui leur est reproché du blanchiment d'argent lors du premier événement organisé en septembre dernier. Ce sont des arrestations arbitraires. Cela fait 3 mois que le rapport financier est publié en Tunisie. Nos membres pouvaient être interrogé sans être arrêté, se désole Aziz Rali, membre du comité de coordination de GSF. Alors qu'il devait être présenté à un juge en fin de semaine, les militants arrêtés ont vu ce mercredi leur détention prolongée de 5 jours. Un incident en rupture avec la longue tradition de solidarité tunisienne vis-à-vis de la cause palestinienne, déplore l'ONG dans un communiqué. La première flottille qui s'est élancée du port de Sidi Bou Saïd a marqué un moment historique pour cette organisation qui achemine de l'aide par voie maritime. maritime. Moment historique, malgré des attaques de drones qui ont visé deux de leurs bateaux. Alertés, les autorités tunisiennes avaient alors dénoncé une agression préméditée. Toujours selon Aziz Rally, le départ de la deuxième flottille, prévue prochainement, est bel et bien maintenu.
Explication signée Sofiane Amazian. C'est un nostalgique de la dictature de Pinochet qui a prêté serment cette nuit au Chili, où José Antonio Kast est devenu le nouveau président du pays. À 60 ans, le dirigeant ultra-conservateur a été investi à Valparaiso lors d'une cérémonie solennelle. Comme le veut la tradition, José Antonio Kast est monté au balcon du palais présidentiel de la Moneda. Pour son premier discours, notre correspondante au Chili, Leïla de Rouanet, était aux premières loges. Reportage.
Sur la place de la Constitution, des centaines de Chiliens applaudissent leur nouveau président. David, un militant d'extrême droite, tient dans ses mains la photo officielle de José Antonio Kast.
Pendant 4 ans, on a eu un président qui n'a servi à rien, mais le changement arrive et le pays va avancer.
Kast, il représente la liberté, dit Vanessa.
Il va nous donner plus de sécurité. On veut pouvoir sortir tranquille de chez nous.
Carmen, elle, attend de Kast qu'il mette en place sa politique migratoire.
Il a promis des expulser les Vénézuéliens. Le pays n'est plus ce qu'il était. Les étrangers en ont pris possession.
Et Raoul, ce qu'il réjouit, c'est la foi de son nouveau président.
En vérité, j'aime José Antonio Kast, car sa vision est centrée sur Dieu. C'est aussi un père de famille avec des principes. Il défend fermement ce en quoi il croit et c'est le principal.
Et après 20 minutes de discours, Kast a conclu.
Que Dieu nous donne de la sagesse pour gouverner avec justice, de la force pour agir et de l'humilité pour servir notre peuple.
Depuis 1990 et le retour de la démocratie dans le pays, c'est la première fois que l'extrême droite arrive au pouvoir. Naïla de Rouanet, Santiago, RFI.
La France, elle, aura un nouveau président l'an prochain et aura de nouveaux maires dimanche soir.
Et oui, à l'issue du premier tour des municipales, on vote dans les 36 000 communes françaises ce week-end. Les plus grandes villes auront besoin d'un deuxième tour pour désigner leur maire. C'est le cas au Havre, même si Édouard Philippe avait failli être élu dès le premier tour en 2020. Cette fois-ci, l'ex-premier ministre aura fort à faire. Le scrutin s'annonce beaucoup plus serré pour le maire sortant, qui réunissait hier ses soutiens au théâtre Le Normandie, sous les yeux de notre reporter Valérie Gasse.
Le 15 mars, Édouard Philippe joue gros. Le score du premier tour au Havre sera déterminant. Le maire sortant le sait et le dit.
L'enjeu pour nous, c'est d'être en tête au premier tour.
La salle est conquise, mais l'élection est loin d'être faite et pour cause. Édouard Philippe est menacé sur sa droite par Franck Keller, le candidat UDRRN. Sans élever le ton, sans même le nommer, l'ancien premier ministre dénonce son incompétence et sa démagogie.
Dire qu'on va réussir à mettre en œuvre un projet qui permettrait de relier Paris au Havre en une heure, parce qu'on connaît bien Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Down. J'arrive un samedi soir dans le New York style. Je n'arrivais pas à y croire, ok j'étais tout déstabilisé. Je viens de France avec ses couleurs fades. Mon petit quartier, j'avoue, j'avais des sueurs froides. Obligé, Times Square m'illuminé. Au cœur de la ville, tout brillait. J'étais seul, j'avais oublié de vous dire. Pour le fun, j'ai voulu briser la routine. Aller m'inspirer à Brooklyn. Manda, Amana, Tam se faufile. Premier contact, mon anglais, faut vraiment que je le peaufine. Mais ça va, je m'adapte, je vois que c'est possible. J'y suis, c'est décidé, dès demain je profite. J'avais le New York style.
Quand je marchais sur Times Square,
New York style.
Sur la 5ème ou Union Square,
New York style.
125ème à Harlem, Brooklyn, Canal Street, Madison Square Garden,
New York style.
Comme Spike Lee ou Sean Carter,
New York style.
Quand je traversais Central Park,
le New York style.
Comme Peter Parker, il me tarde de revoir Manhattan, faut que je reparte.
Deuxième jour, faut que je m'éclate. Je vais direct faire un tour pour me repérer sur la carte. À l'aise dans mes shoes, la peur zappée par la voix. Je commence à avoir le New York style. J'ai pas le choix, j'ai peu de temps devant moi. En plus, personne n'avance à deux temps. L'endroit est intense. Troisième jour, je m'en vais faire quelques dépenses. Je suis ambiance car ce soir c'est Knicks, New Orleans, Hoe Garden. Quatrième jour, j'enchaîne, je vais à Harlem. Pas Central Park, mes jambes je m'almène. Retour en métro, devant l'hôtel, un mec s'amène.
Yeah, what you want, smoke, cool?
Yeah, smoke. J'avais le New York style.
Quand je marchais sur Times Square,
New York style.
Sur la 5ème ou Union Square,
New York style.
125ème à Harlem, Brooklyn, Canal Street, Madison Square Garden,
New York style.
Comme Spike Lee ou Sean Carter,
New York style.
Quand je traversais Central Park,
le New York style.
Comme Peter Parker, il me tarde de revoir Manhattan, faut que je reparte.
C'est déjà le 5ème jour, les minutes s'additionnent. Trop vite comme les points du King au Madison. Je redoute de rêver que mon réveil sonne. Je suis là avec Jay-Z mais y'a plus de 15 000 personnes entre nous. Mon table j'ai kiffé et entre nous, lequel d'entre vous a eu cette chance là? Sixième jour je peux pas repartir sans voix. Brooklyn, York, je reste sans voix. Tout est hip hop, je suis pas pressé de m'en aller. Mais cet épisode est fini, je dois remballer. Septième jour, la tristesse m'accompagne. Ainsi que le New York style, retour à Paris.
New York Street, New York Street, New York Street. New York Street, New York Street, New York Street.
J'avais le New York style.
Quand je marchais sur Times Square,
New York style.
Sur la 5ème ou Union Square,
New York style.
125ème à Harlem, Brooklyn, Canal Street, Madison Square Garden,
New York style.
Comme Spike Lee ou Sean Carter,
New York style.
Quand je traversais Central Park,
le New York style.
Comme Peter Parker, il me tarde de revoir Manhattan, faut que je reparte.
J'avais le New York style. New York style. Le New York style.
Comme Peter Parker, il me tarde de revoir Manhattan, faut que je reparte.
des principes actifs à Évreux
sur le DAB+.
Sur le DAB+.
Thank you.